Il a fallu que Jésus meure pour que nous soyons sauvés. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons nous arrêter et regarder à travers de ta parole, Seigneur, tout ce que tu veux nous dire ce matin. Ta parole est inspirée de toi, mais nous, Seigneur, souvent, nous sommes à côté de ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment écouter ce que tu veux dire. Mais tout ce qui viendrait de moi-même, de l'homme, Seigneur, tu puisses le retirer. Mais que nous puissions écouter ce que tu veux nous dire ce matin. En Jésus. Amen. Alors, il y a à peu près un mois d'ici, un peu plus qu'un mois, il y avait une fête. C'était quelle fête? Pas la Coupe d'Afrique, hein. Il y avait une fête. À peu près un mois, un peu plus qu'un mois. Ah, oh, j'ai entendu là. Saint-Valentin. La fête des amoureux, Saint-Valentin. Le samedi 14 février, je commençais à préparer pour la réunion de prière le 17 février. Je dis, pourquoi pas sur la Saint-Valentin? Et voilà, entre-temps, nous avons eu notre frère Éric Laurent qui est venu ici le dimanche. Je me suis dit, non, je préfère qu'on fasse cette réunion de prière à travers ce qu'il a dit. Et puis, durant la semaine, j'ai regardé ce que j'avais préparé et je dis, mais pourquoi pas une prédication? Alors ce matin, on est un peu à l'avance, un peu en retard, je veux dire, de ça, mais il est bon de s'arrêter et d'écouter. Saint-Valentin, la fête des amoureux. D'où vient cette fête? Ça a tellement changé. Et on a beaucoup parlé de cette fête. Mais la plus ancienne que j'ai vue vient du 3e siècle. On a parlé de ce 3e siècle, après Jésus-Christ. Ce prêtre romain, Valentin. À cette époque, il avait l'empereur II, Claude II. Il était engagé à plusieurs guerres. Et il avait du mal à recruter de nouveaux soldats. S'il y a une guerre aujourd'hui, il aura du mal aussi à recruter. Les Romains étaient trop attachés à leur famille. Alors l'empereur a décidé d'interdire le mariage. Mais le prêtre Valentin, lui, décide de continuer le mariage. Et un jour, il se fait arrêter, Valentin, mis en prison. Et le 14 février 270, ce prêtre se fait décapiter. Deux siècles plus tard, le pape Gélasé le déclare saint patron des amoureux. Le 14 février, la fête des amoureux. Aujourd'hui, nous fêtons encore cette fête, la fête des amoureux. Mais j'ai regardé un petit peu sur Internet le nombre de mariages ici en Belgique. Alors les chiffres de 2025 n'étaient pas encore là, ni de 2024, mais plutôt les chiffres de 2023. Il y a eu 46 564 mariages ici en Belgique. En Flandre, 25 000. J'arrondis, hein. La Wallonie, 7 600. Bruxelles, 4 200. Et puis, j'ai regardé combien de divorces l'année-là. Et le divorce est de 20 000. 46. quasiment la moitié. En Flandre, il a eu 25 000 mariages et puis 11 000 divorces. La Wallonie, 7 600 mariages et la Wallonie a eu 6 460 divorces. Bruxelles, 4 000 mariages et 2 167 divorces. La fête des amoureux, pas un jour, mais pour toujours. Comme Mehdi le dit souvent, je suis un supporter de Florent Varac. Et Florent Varac dit, se coucher à deux, c'est tellement facile. Mais se réveiller à deux, là, ça devient plus difficile. Et c'est tellement compliqué. Alors, ce matin, ça arrive souvent qu'on dit à une personne qui est seule, tu n'es pas encore marié. Ça m'est déjà arrivé. C'est encore et encore mettre un couteau sur la plaie. Jusqu'à dire, mais tu n'es pas trop exigeant ou exigeante. Alors on prend ce verset de Proverbes, chapitre 31, verset 30, hors contexte. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mais est-ce que l'auteur voulait vraiment dire cela? Déjà, il faut regarder qui est l'auteur de ce chapitre 31, seulement ce chapitre 31. Est-ce que c'est le roi Salomon? Est-ce que c'est pas le roi Lémuel ou sa mère de ce roi? Une mère, c'est ce qui est la priorité pour son fils. L'auteur veut peut-être dire, si tu mets l'accent que sur la beauté, et tu mets le reste de côté, là, va avoir des problèmes, des soucis. À la maison, au salon, nous avons une belle photo de mariage. J'avais 25 ans. À l'époque, j'avais des abdos, des beaux cheveux, pas de rides, un beau sourire. Aujourd'hui, quand je regarde cette photo après presque 30 ans, ses abdos ont fondu, les cheveux sont perdus, deviennent blancs, un peu plus de rides, pas beau le sourire. Si Myriam aurait mis l'accent que sur le physique, elle serait vraiment triste aujourd'hui. Vraiment triste. L'auteur met l'accent et la priorité. Une femme et un homme doit premièrement aimer le Seigneur de tout son cœur et passer par une vraie conversion par la foi. Cet homme, cette femme aime le servir de tout son cœur. On peut avoir les deux, la beauté et aimer le Seigneur de tout son cœur. Alors on va lire Proverbes au chapitre 31 et nous lirons les versets 10 à 31. Quelques points sur le couple, quelques points pour les personnes seules et une conclusion. Je voudrais lire cela dans la version français courant. Je trouvais ça si beau en français courant, je voudrais le lire. Alors, Proverbes au chapitre 31, les versets 10 à 31. Il est dit une femme veillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour et prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec énergie. Elle ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien et elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a double vêtement. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un notable, honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements. Elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité de sa parure, elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante des louanges. « Bien des femmes se montrent veillantes, dit-il. Mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur. La beauté est passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Que l'on récompense sa peine et que l'on chante ses mérites sur les places publiques. » Voilà, ce matin, un beau texte. Sur ma Bible, il y a un titre. Et ce titre est « La femme de valeur ». Mais ce matin, je voudrais rajouter sur ma Bible, pas la vôtre, mais sur ma Bible, aussi l'homme de valeur. Avoir qu'une femme de valeur et pas l'homme de valeur, ça va pas. Il faut les deux ensemble. L'homme et la femme de valeur. Et dans Proverbes au chapitre 20, il est dit au verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Il faut les deux, l'homme et la femme de valeur. Et dans ce verset 10, il dit « Une femme veillante est une véritable trouvaille. » Mais ainsi pour l'homme. La question est, qui peut trouver l'homme ou la femme de valeur aujourd'hui? Qui peut trouver l'homme et la femme de valeur? Il est dit, elle a plus de valeur que des perles. Je trouvais ça beau. Alors, dans l'évangile de Matthieu, il est dit que le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une grande valeur, il vend tout ce qu'il possède et achète cette perle. C'est intéressant ce texte, parce que ce texte parle de la perle. Et dans ce contexte, c'est qui les perles? Mais c'est l'Église, les perles. Et l'épouse, c'est Jésus-Christ. Alors, où trouver l'homme de valeur, cette perle? Où trouver cette femme de valeur, cette perle? Dans l'Église, et pas ailleurs. Dans l'Église, il y a cette perle. Ce sont les grandes valeurs. Alors c'est intéressant de voir qu'il vend tout ce marchand pour acheter cette perle. Et nous avons parlé ce matin. Oui, Jésus-Christ a tout vendu et s'est dépouillé. Et il est venu pour mourir sur la croix pour nous. Il a payé le prix. Alors ces deux perles, quand ils se ressemblent et s'assemblent ensemble, deviennent une perle de valeur. Mais il faut vendre l'ancienne nature pour avoir cette nouvelle nature. Ce couple doit vendre son orgueil. Il doit vendre son égoïsme. Il doit vendre sa jalousie. Il doit vivre le pardon et l'amour, non pour un jour, mais pour toujours. Deux perles ensemble. Dans le verset 11, il dit « Son mari place sa confiance en elle. » Il place sa confiance en elle. Ce n'est pas une confiance intellectuelle, mais c'est une confiance d'un cœur qui est dirigé d'amour. Voilà le couple, deux perles récentes qui sont ensemble pour devenir cette perle rare, d'une grande valeur. Alors, ils ont confiance entre eux deux. Une confiance d'amour, sincère. Ça, c'est pour le couple. Toi qui es seul, tu es la perle d'une grande valeur qu'on vous aime. Une grande erreur que j'ai fait le 14 février. J'ai téléphoné à personne, ceux qui étaient seuls, pour leur dire « On vous aime ». Quelle erreur, j'espère pour l'année prochaine, pour leur dire combien on vous aime. Vous êtes une perle d'une grande valeur. Et certainement, le Seigneur te le dit chaque jour. En plus qu'il te le dit chaque jour, il a placé sa confiance en toi. Et en retour, toi aussi, tu peux lui dire que tu l'aimes et que tu as confiance en lui. Ce n'est pas facile de vivre seul, mais tu es la perle d'une grande et d'une grande valeur. En verset 11, il est dit, elle ne lui gaspille pas son bien. Et directement, on pense bien sûr à l'argent. Pourquoi acheter 30 paires de chaussures? Pourquoi acheter 20 sacs de Louis Vuitton? Est-ce que tu ne lui gaspilles pas son bien? Et toi, pourquoi t'achètes 20 paires de Nike? Pourquoi t'achètes tous les mois des jantes à ta voiture? Tu ne lui gaspilles pas son bien? J'ai lu un témoignage d'un homme chrétien. Il disait qu'il travaillait énormément pour sa famille. Et chaque fois qu'il rentrait à la maison, il se mettait sur le canapé et s'endormait tellement qu'il était fatigué. Et un jour, sa femme lui dit « Hey, si tu entends ça une fois, alors là, fais attention. Hé, on ne veut pas le reste. Ne donne pas aux autres le meilleur de toi pour nous servir le reste. » Mais c'est vrai. Le mari ainsi que la femme ne représentent pas simplement aux besoins matériels de sa famille. Mais le mari et la femme doivent s'investir dans son foyer avec persévérance pour pas gaspiller son bien? Est-ce que je suis à l'écoute de ma famille? Est-ce que je passe du temps avec ma famille? Est-ce que je lui fais du bien à ma famille? Eric, ça lui arrive qu'il m'envoie un message pour me dire « Sonia n'est pas bien, je reste près de Sonia ». Est-ce qu'il gaspille son bien? Non. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec Marie, qui est ici présente, pour lui demander comment elle va. Elle m'a dit « c'est pas facile tous les jours ». Mais elle m'a dit « heureusement que j'ai mon mari, qu'il est patient envers moi, qu'il est rempli de douceur ». Ça m'a frappé. Est-ce qu'il gaspille son bien? Ben non. On se souvient tous ici que Génia avait témoigné quand André était à l'hôpital, qu'elle passait du temps à la prière. Est-ce qu'elle gaspille son bien? Ben non. C'est pas simplement l'argent, mais le temps que tu passes envers ta femme, ton mari. Dans le verset 12, il est dit « Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Wow. » Tous les jours de sa vie. Sa femme n'est pas un fardeau, mais une grâce qu'il reçoit ou qu'elle reçoit que du bien tous les jours. Elle le soutient. Elle l'encourage. Elle le porte. Et elle le fait avec douceur. L'homme également doit être comme cela. Toi qui es seul, le Seigneur ne gaspille pas ton bien. Si tu veux acheter 20 paires de chaussures, 20 sacs, ou tu pars en voyage, tu gaspilles pas ton bien à quelqu'un d'autre. Mais fais-le avec sagesse. Fais-le avec intelligence. Il n'y a pas si longtemps, j'avais téléphoné à Jean. José m'avait dit qu'il n'était pas bien. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Je suis en train de promener maman. » Waouh, ça m'a touché le cœur. Je me souviens, je faisais la même chose avec mon papa. Est-ce qu'il gaspillait son bien? Toi qui es seul, c'est pas que l'argent, mais aussi ton temps que tu as. Le Seigneur te cause jamais de tort. Il vient te donner du bonheur tous les jours de ta vie. Il est celui qui te soutient. Il t'encourage, il te porte et il le fait avec douceur. Tu peux le faire aussi pour ta famille. Tu peux soutenir ta famille, l'encourager, le porter. Et tu peux le faire avec douceur. Tu ne vas pas gaspiller ton bien. Au contraire, tu apportes ton bien à ta famille. Alors je vais avancer parce que quand j'ai préparé, j'avais des feuilles. J'étais perdu tellement que... Alors, j'ai dû raccourcir. Alors, les versets 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, je les mets ensemble. C'est une femme qui travaille la laine, le lin. Elle fait les courses loin pour la nourriture. Elle réfléchit, elle achète, elle plante, elle vend. Wow. C'est une femme qui fait que de travailler pour elle, pour sa famille, pour son mari. En quelque sorte, elle a des mains joyeuses. Elle reste active. Elle est remplie de sagesse. Elle trouve du plaisir à travailler. Est-ce qu'elle le fait pour fuir la famille? Non, hein? Vraiment pas. Dans le verset 15, il est dit « Elle se lève avant le jour et prépare le repas de sa famille. Elle distribue à ses servantes leur travail. » J'étais bluffé d'entendre cela. Elle a cette femme des servantes et c'est elle qui se lève très tôt pour préparer. Cette femme, elle est engagée dans le service pour sa famille. Elle aime la communion de sa famille. C'est le meilleur moment, je trouve, être à table en famille. C'est le moment où on rigole. Souvent, les enfants rigolent de moi. Mais on rigole. On raconte des histoires à table. Cette femme aime passer du temps à table. C'est une femme qui a les mains joyeuses. Dans ce texte, je ne l'ai jamais vu, cette femme en train de respecter. Elle est parfaite. Elle sait pourquoi elle le fait. Elle le fait parce qu'elle a la crainte de l'Éternel. Elle respecte le Seigneur. Et en respectant le Seigneur, elle respecte toute sa famille et son mari. Il est dit dans le verset 18, elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Alors j'ai pensé, ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé à ces 10 vierges. 5 d'entre elles sont folles et 5 d'entre elles sont sages. Ils attendaient le Seigneur. Cette femme, elle attend quelque chose. Elle attend le Seigneur. Dans le verset 25, elle dit, elle sourit en pensant à l'avenir. Le Seigneur va revenir. Le couple doit avoir des mains actives, ensemble, des mains joyeuses. On le fait pour le Seigneur. On le fait parce qu'il revient bientôt. Et on doit sourire à l'avenir. Il revient. Mes mains doivent être remplies d'amour. Parce que j'ai la crainte de l'Éternel. Les mains de l'Éternel m'ont façonné. Et mes mains doivent façonner ma famille, ma femme, mes enfants. Nous devons avoir des mains joyeuses. Alors toi qui es seul, tu as la possibilité de faire telle et telle chose. C'est même l'apôtre Paul qui le dit. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Tu aimes le Seigneur. Et tu veux t'investir pour ta famille. Et t'investir pour la famille de l'Église. Le Seigneur revient bientôt. C'est pas avoir une peur. Mais quand tu es actif, le retour va plus vite. Tu as des mains joyeuses. Agis pour ta famille et pour l'Église. Cette femme est généreuse envers les pauvres. Être généreuse, ça veut dire qu'elle a donné ce qu'elle aime aux pauvres. Et si elle l'a fait aux pauvres, à combien plus forte elle le fait à sa famille et à ses enfants. Souvent, je vois Myriam faire des choses pour les enfants et pour moi. Elle a compris qu'elle a vendu tout ce qui était sa vieille nature pour donner cette nouvelle nature. Toi qui es seul, le Seigneur est généreux envers toi. Et toi, tu es appelé à être généreux envers ceux qui sont alentour de toi. J'avance. Le verset 28. Alors les enfants viennent la féliciter et son mari chante des louanges. Moi, quand je chante des louanges à Myriam, elle me dit directement, tais-toi, tais-toi. Et toi, est-ce que tu félicites ta maman, ton papa? comme cette chanson. Tu es formidable. Tu es formidable. Est-ce que tu le dis à ta maman, à ton papa? Et toi, Marie, toi, femme, est-ce que tu loues ton mari? Est-ce que tu loues ta femme? Moi, j'ai un collègue, il fait parler de sa femme. Ma femme ci, ma femme là, elle me prépare ci, elle me prend. C'est tellement beau. Il a le sourire quand il parle de ça. Mais dès qu'il n'est pas là, mes autres collègues commencent à le critiquer. Oh, sa femme, et sa femme, et sa femme. Mais quand j'examine un peu ses collègues, je vois qu'ils sont pas bien à la maison. Est-ce que tu loues ta femme? Est-ce que tu loues ton mari? Moi, je dois confesser. Je respecte plus que louer ma femme. Je dois prendre exemple de cette femme. Je vois Francie. Combien il loue Jacqueline. Encore aujourd'hui qu'elle est décédée. On voit vraiment cet amour dans son cœur pour Jacqueline. Il loue encore aujourd'hui. Et nous qui sommes vivants, est-ce que je loue ma femme et mon mari? J'avais vu une image qu'elle m'a frappé, cette image. C'était un homme et une femme. Ils sont sur ce lit. Lui d'un côté avec sa tablette et sa femme qui regardait son dos et qu'elle pleurait. Et lui qui jouait avec sa tablette, jouait ou lisait. Et puis en dessous, il y a encore cette photo. Mais cet homme est avec la photo de sa femme qu'elle est décédée. N'attendons pas qu'elle soit décédée pour la louer. Faites-le déjà maintenant. En rentrant, louez votre femme. Toi qui es seul, tu sais que Jésus te loue auprès du Père. Et toi qui es seul, tu peux louer le Seigneur et lui dire que tu l'aimes de tout ton cœur. J'arrive à la conclusion. Comment vous savez que je suis marié? Parce que je porte cette alliance qui montre que je suis marié. Pâques approche. Et cette croix nous montre qu'il a fait une alliance avec toi. Ça, c'est pour te montrer qu'il a fait l'alliance avec toi. S'il est plus sur la croix, c'est pour montrer que c'est vrai et sincère. Cette alliance a été faite une fois pour toutes, non pour un jour, mais pour toujours. Il est notre Dieu, comme ça a été dit ce matin. Mais notre Dieu d'une grande valeur. Il est la perle de notre vie. J'ai confiance en lui. Il a payé pour moi. Et je lui appartiens. Et il travaille avec moi. Et c'est celui qui m'encourage. Et qu'il est généreux envers moi. Et qu'il revient bientôt pour moi, pour vous aussi. Alors cette semaine, j'ai envie de vivre avec ma femme, mon mari, le premier miracle de Jésus-Christ. Qui sait me dire le premier miracle de Jésus-Christ? L'eau en vin. Effectivement, l'eau en vin. Mais dans ce miracle, il y a un autre miracle. Vous savez, Ce miracle, c'est quoi? C'est que le couple a invité Jésus-Christ. Le couple doit inviter Jésus-Christ dans leur vie. Jésus doit être au milieu. C'est celui qui va remplir de vin tous les jours dans notre vie, qui est un amour éternel et non artificiel. Alors dis à ta femme, allez viens, je t'emmène au vent, au-dessus des gens. Je voudrais que tu te rappelles notre amour éternel et non artificiel. Agis ce matin et cette semaine, un amour éternel. Toi qui es seul, ce n'est pas facile. La seule personne qui peut te comprendre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous l'ont abandonné, même le Père. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mystère. Ce mystère est le plan de Dieu, un plan d'amour. Mystère pour toi. Mais tu es dans le plan de Dieu. Tu es la perle d'une grande valeur. Alors, tu es la perle pour tous les autres. Mais attention, ne jette pas tes perles n'importe comment, mais fais-le avec sagesse. Je voudrais terminer en vous disant, je vous aime et que le Seigneur vous bénisse. Amen.